Nous allons parler de quelque chose qu'on connaît déjà, mais la grâce de Dieu, on entend ce mot assez souvent dans les églises. J'espère aussi que beaucoup d'entre nous l'expérimentons, mais j'avais à cœur de vous en parler sous un angle un peu particulier, notamment tiré des réflexions que Paul nous soumet dans Romains chapitre 5. Donc on va voir ensemble quelques versets dans ce chapitre. Et pour nous remettre un petit peu dans le contexte, on va lire quelques versets, donc Romains chapitre 5. À partir du verset 1. Romains chapitre 5, à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or le péché n'était pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Je vais m'arrêter là. Donc nous avons là une description de ce que la loi produit et puis de ce que la grâce aussi nous a donné. Et une chose que nous voyons au verset 1, c'est que nous avons la paix avec Dieu à jamais. Nous avons la paix avec Dieu à jamais. Vous savez, quand vous regardez un petit peu l'histoire de l'humanité, et ce qu'on en connaît, ce qu'on en voit aussi aujourd'hui, il y a eu des guerres, et il y a eu des traités de paix, heureusement, mais ça n'a pas empêché parfois les nations de se refaire la guerre. Et l'Europe, c'est un continent qui a, durant des siècles, vécu, expérimenté énormément de conflits. Et nous étions en conflit avec Dieu, à cause du péché d'Adam. Mais la réconciliation qui a eu lieu et la paix que nous avons avec Dieu aujourd'hui est une paix qui ne sera jamais effacée. Jamais. Vous savez, quand après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un traité de paix avec l'Allemagne, et je me rappelle quand j'étais petit, il y avait des gens, des adultes, qui avaient encore de l'animosité envers les Allemands. Et on peut comprendre, humainement parlant, nous savons que c'est le discours chrétien est de pardonner, mais tout le monde n'est pas chrétien, et même les chrétiens parfois ont du mal à pardonner. Néanmoins, les deux nations vivaient en paix. C'est pas parce que vous aviez des citoyens français, par exemple, qui gardaient une animosité, une haine, voire, envers les Allemands, que la paix était rompue. Et depuis, que je sache, il n'y a plus jamais eu de guerre avec l'Allemagne. Eh bien, c'est un peu la même chose avec Dieu, mais plus encore parce qu'il y a une espérance éternelle, alors que une réconciliation entre deux pays peut s'arrêter du jour au lendemain. Et maintenant que nous avons la paix avec Dieu, il se peut que dans notre parcours, durant notre parcours spirituel, nous soyons parfois amers envers Dieu, désobéissants vis-à-vis de Dieu. On peut ne pas comprendre ce que Dieu fait dans notre vie. On peut s'interroger, on peut lui en vouloir. Donc on est en conflit avec Dieu. Ça s'appelle le péché, le manque de communion avec Dieu, la rébellion, la désobéissance, l'endurcissement du cœur. Mais du côté de Dieu, la guerre ne recommence pas. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et la réconciliation qui a été obtenue par la grâce, au moyen de la foi, et par l'œuvre de Jésus-Christ, nous permet aussi d'avoir cette assurance qu'il y a eu un traité de paix fait avec ceux qui ont la foi, avec ceux qui ont cru. Et Dieu ne sera plus jamais en guerre contre nous. Plus jamais. Des parents, comme notre Père Céleste, peuvent nous discipliner. Mais, et ça c'est une petite parenthèse concernant l'éducation des enfants, il faut toujours que les enfants soient conscients autant que faire se peut et aient l'assurance que leurs parents ne sont pas en guerre contre eux. Les parents peuvent s'opposer aux enfants, peuvent corriger les enfants, instruire les enfants, s'opposer aux enfants, mais ça ne doit pas être fait dans la haine, dans l'amertume, dans la vengeance, dans l'animosité. Il faut d'abord aller rencontrer Dieu, retrouver la paix de Dieu pour pouvoir agir correctement en tant que parents qui corrigeons. Et donc, Dieu, lui, ne sera plus jamais en colère contre nous. Et d'ailleurs, c'est toujours quelque chose que je répète régulièrement, quand il est parlé de notre relation avec Dieu et le fait que nous attristions le Saint-Esprit quand on désobéit à Dieu, il n'est jamais dit que le Saint-Esprit est en colère. Il est dit que le Saint-Esprit est attristé. Et ça nous parle vraiment du cœur de Dieu vis-à-vis de nous. Il est attristé parce qu'il nous aime, parce que la paix a été faite une fois pour toutes, pour l'éternité. Et c'est un peu comme si les dirigeants des deux pays, Allemagne et France par exemple, étaient attristés parce que des citoyens continuent de se battre, de se venger. Mais ça ne veut pas dire que ça enclenche une guerre, mais au contraire, parce qu'on veut maintenir la paix, ça attriste les dirigeants de voir leurs compatriotes ne pas accepter cette paix. Et bien, c'est exactement ce qui se passe dans notre relation avec Dieu. Dieu est attristé quand on s'oppose à lui, mais il n'est plus en colère contre nous. Pourquoi ? Parce que ce péché qui consiste à être amer peut-être, à en vouloir à Dieu, à lui désobéir, ces péchés-là ont été réglés à la croix eux aussi. Et donc nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il dit au verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, donc pas par les œuvres, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc plus jamais Dieu ne sera opposé à une personne qui a cru. C'est extraordinaire de penser ça. Pensons par exemple, souvent les gens ont du mal à comprendre, je parle des chrétiens qui connaissent un peu l'Ancien Testament, on a du mal des fois à comprendre le comportement de Dieu vis-à-vis de Jacob, qui a trahi son frère, qui a menti, qui a désobéi à Dieu, qui était quelqu'un qui faisait ses petites combines. Mais Dieu n'était pas en colère contre Jacob. Pourquoi ? Parce que Jacob croyait. Il était charnel, Dieu était obligé de s'opposer à lui, mais Dieu était avec Jacob et il n'a pas été avec Ésaü. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Tout simplement parce que Ésaü ne croyait pas. Il ne croyait pas, il n'avait pas confiance dans la promesse. Et donc, Dieu était en guerre contre Ésaü alors qu'il n'était pas en guerre contre Jacob. Même si Jacob pouvait peut-être commettre plus de péchés qu'autrui. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'en grec, quand il est dit « nous sommes justifiés par la foi », c'est un aoriste qui est utilisé. L'aoriste, quel est ce temps que nous n'avons pas, on a quelque chose de proche, mais nous c'est plutôt le passé simple qu'on va utiliser. Mais l'aoriste, c'est un temps dans le passé qui n'a plus besoin d'être répété. Nous avons été justifiés par la foi, c'est terminé. Si vous voulez, les Grecs utilisaient l'aoriste par exemple pour dire « vous êtes né » ou un jour votre maman vous a fait naître. C'est un passé qu'on ne peut pas changer. Vous êtes né, on ne peut pas effacer votre naissance. De la même façon, nous avons la paix avec Dieu. C'est terminé. C'est une fois pour toutes. Ça ne peut pas être effacé. Et ensuite, parce que nous avons été justifiés, donc c'est un temps passé qu'on ne peut plus effacer et toucher, nous avons la paix avec Dieu. Et là, c'est un présent continu. C'est parce que nous avons été justifiés que nous avons la paix avec Dieu. et que Dieu est en paix avec nous. C'est pas parce que aujourd'hui je fais tout parfaitement que j'ai la paix avec Dieu. C'est pas parce que je suis parfait que j'ai la paix avec Dieu. C'est pas parce que mes émotions sont au top que j'ai la paix avec Dieu. C'est pas parce que tout est lisse dans ma vie que j'ai la paix avec Dieu. C'est pas parce que Dieu répond à mes prières que j'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu parce que j'ai été justifié une fois pour toutes lorsque j'ai cru. C'est pour ça que j'ai la paix avec Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que, malgré ses imperfections, et qui étaient nombreuses, comme nous, Jacob, lorsqu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, tout pécheur qu'il était, s'accrochait à l'ange de l'Éternel en disant « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni ». Il osait parler à Dieu de cette manière-là, il osait réclamer la bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il savait que, malgré ses faiblesses, son péché et la discipline de Dieu qu'il a dû subir, il savait que Dieu était avec lui. Et c'est pour ça que nous pouvons dire, nous aussi aujourd'hui, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Nous avons la paix avec Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons été justifiés par Christ. Nous avons la paix avec Dieu et Dieu est en paix avec nous parce que quelqu'un d'autre a fait une œuvre. C'est grâce à lui que nous avons la paix avec Dieu. Et cette paix a été scellée à jamais selon la grâce de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail là, mais quand on regarde Romains chapitre 5, notamment des versets 5 à 11, il nous est parlé de la justification, c'est-à-dire que Dieu a pris soin de nos péchés, passés, présents et futurs, par le moyen de la justification. S'il avait traité nos péchés selon les termes de la loi, comment il aurait traité ? Par la condamnation. Non, il les a traités par la justification en condamnant quelqu'un d'autre. Et donc, par la condamnation de nos péchés par quelqu'un d'autre, ou sur le dos de quelqu'un d'autre, notre bouc émissaire, Jésus-Christ, lorsque nous croyons dans ce bouc émissaire, lorsque nous croyons à l'agneau qui ôte les péchés du monde, nous sommes justifiés. C'est-à-dire que nos péchés ont été jugés, condamnés, et la sentence a été exécutée. Et donc, Dieu a traité les péchés, judiciairement parlant, par ce que Dieu a fait en son Fils, et donc ça s'appelle la justification. Et puis ensuite, il prend soin du péché, ce qui n'est pas la même chose. Les péchés, c'est ce que nous faisons tous les jours. Et pourquoi nous en commettons ? Parce qu'il y a le péché. Et donc Dieu va s'occuper du péché. Et quand je vous parlais tout à l'heure de Jacob, c'est ce qu'il a fait tout au long de la vie, de l'existence de Jacob. Dieu a... si vous voulez, s'est occupé des péchés de Jacob au travers des sacrifices des animaux dans l'Ancien Testament qui préfiguraient la mort de Christ à la croix. Donc ça, c'était les péchés de Jacob. Mais le péché de Jacob, il s'en occupait par la sanctification. C'est-à-dire que c'est au moyen de la sanctification aujourd'hui que Dieu traite le péché, qui sera toujours là tant que nous serons vivants sur cette terre. Il sera éradiqué complètement lorsque nous serons au ciel. Mais ce qu'on appelle, rappelez-vous, il y a trois phases dans la sanctification. Il y a la sanctification positionnelle, on reçoit Christ comme sauveur, on est uni à Dieu pour l'éternité, c'est notre position en Christ, on est enfant de Dieu. Sanctification progressive, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit, on voit ça dans 1 Corinthiens. Et puis, il y aura la sanctification ultime où nous serons ressuscités en lui, glorifiés, tel qu'il est, nous le serons aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase de la sanctification, c'est-à-dire que Dieu nous a pas simplement justifiés et nous a pas dit, bon, en attendant d'être meilleur un jour dans l'éternité, débrouille-toi. Non, il va s'occuper de nous. Et donc il va travailler au travers des différentes situations de la vie. Et donc, on tombe tous les jours, on confesse nos péchés et Dieu est fidèle et juste de les pardonner. Pourquoi ? Parce que nous avons été justifiés en Jésus-Christ. Et en même temps, il va travailler dans notre vie, il va permettre des situations, il va permettre que nous écoutions certains messages bibliques, que nous lisions la Bible, il va permettre que le Saint-Esprit nous touche, nous parle. Il y aura des situations contraires ou au contraire favorables. Tout ce qui se passe dans notre vie est en contrôle, si vous voulez, c'est entre les mains de Dieu pour nous amener dans un chemin de sanctification pour s'occuper de notre péché. Pourquoi ? Parce que le bien qu'on veut faire, tel que Paul le dira en Romains 7, on n'arrive pas à le faire, et le mal qu'on ne veut pas faire, on le fait quand même. Et donc, à partir de ce constat, Dieu fait le même constat, il est d'accord avec ça, il va s'occuper de cela, il va s'occuper du péché. Et c'est ça le processus de sanctification. Et c'est ce que nous voyons plus tard en Romains 8, versets 28 et 29. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et donc on est destiné à lui ressembler, et c'est ce que Dieu est en train de faire dans votre vie en ce moment, et dans la mienne. Et donc, en prenant soin du péché au travers de la sanctification, nous rentrons dans ce que nous sommes vraiment. Et ça, c'est une grâce aussi. Alors évidemment, on a du mal à l'accepter, parce que quand on traverse des tribulations, quand il y a des oppositions, des impossibilités, quand il y a des choses qui nous agressent, qui nous énervent, des injustices que l'on peut subir aussi, on a du mal à accepter l'idée que Dieu est derrière tout cela. Mais nous avons l'obligation de se tenir devant Dieu et devant Dieu de dire « Seigneur, merci parce que tu es en train de t'occuper de moi. Merci. » Vous savez, c'est pas toujours facile de dire merci pour les épreuves. C'est pas toujours facile de dire merci pour les trahisons. C'est pas facile de dire merci pour l'oubli dont on fait l'objet. C'est pas facile de dire merci pour des fois des moments de solitude, des moments d'angoisse pour certains, des moments pour les maladies. De dire Seigneur, merci pour la vie que j'ai, même si c'est difficile, mais je sais que tu es en train de faire une œuvre, tu traites mon péché. Le péché. Et des fois, mes réactions négatives sont une démonstration que le péché est toujours là. Et il se manifeste en voulant faire valoir nos droits, nos prétentions, notre volonté, alors que Jésus, on le sait, a toujours voulu faire la volonté du Père. Néanmoins, ces moments difficiles que nous sommes obligés de traverser parfois, c'est pas lié forcément d'ailleurs au fait que nous ayons commis beaucoup de péchés. C'est parfois simplement dû à quelque chose de mieux encore que ce que nous vivons. Ça, c'est aussi un autre point. Certains se disent, non mais moi, comparé à d'autres quand même, je veux dire, j'ai l'impression d'être un peu au-dessus de la mêlée. Pourquoi Dieu permet des épreuves dans ma vie? Mais parfois, c'est pas pour vous discipliner. C'est pour vous amener à une plus grande sanctification. Pour vous faire connaître des territoires encore plus grands. Vous savez, c'est un peu comme un joueur d'échecs. S'il est dans un club de quartier et il est au-dessus de la mêlée, il gagne toutes les parties, c'est une chose. Mais peut-être s'il va des fois dans un club ailleurs qui est peut-être plus élevé, enfin avec des joueurs plus difficiles à battre, il va grandir, il va apprendre de nouvelles choses. En sport, c'est pareil. Vous pouvez rester dans un club et vous êtes le meilleur du club et vous contentez de ça. Puis des fois, vous allez peut-être être 10e ou 5e dans un autre club, mais vous allez grandir. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie, parfois. C'est pas qu'il ait quelque chose contre nous, là, présentement, mais il veut pour nous quelque chose de meilleur. Si nous lisons les actes des apôtres, par exemple, ou les épîtres, nous savons bien, enfin on peut imaginer que les apôtres, avec leurs qualités et leurs défauts, mais grosso modo, ils marchaient dans le plan de Dieu. On ne peut pas dire que c'était des rebelles, on ne peut pas dire que c'était des menteurs, ils étaient intègres, tout ce qu'on en sait, c'était quand même des chrétiens spirituels. Mais pour autant, ils n'ont pas eu une vie facile. Est-ce qu'ils n'ont pas subi le rejet? Est-ce qu'ils n'ont pas subi la solitude? Est-ce qu'ils n'ont pas subi des injustices? Est-ce qu'ils n'ont pas subi la prison? Est-ce qu'ils n'ont pas subi les martyrs? Bien sûr que si. Mais pour autant, c'était une œuvre de grâce. C'était une œuvre de grâce, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur permettait de rentrer dans une dimension plus grande encore de la vie avec Christ. Et donc c'était le chemin de la sanctification. Et parce que nous avons maintenant accès à cette grâce, Dieu peut faire un travail qu'il n'aurait pas pu faire auparavant. Et en attendant la paix future, la glorification, il nous est parlé de la paix que nous avons avec Dieu, donc on revient à Romains 5, regardez au verset 3 et 4, il est dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alors pourquoi ça produit la persévérance, l'affliction ? On peut se poser la question. Par exemple, je suis au chômage, je perds mon emploi, c'est une affliction. Pourquoi ça produit la persévérance forcément ? Alors d'abord, c'est pas toujours le cas si on se rebelle à ça. Mais si on marche dans le plan de Dieu, pourquoi ça produit la persévérance ? Si je suis malade, une affliction différente, pourquoi ça produit la persévérance ? Parce que le synonyme, c'est pas le synonyme de l'affliction, mais ce qui découle de l'affliction, c'est qu'on se retrouve dans une situation qu'on ne peut pas changer. on la subit. Donc on est obligé de persévérer. Soit on persévère, soit on abandonne la foi, soit on trouve un moyen autre qui est peut-être le péché, la vengeance, le mensonge. Donc on cherche une porte de sortie à l'affliction, mais là c'est pas la sanctification du coup, ça produit pas la persévérance. En revanche, si je veux marcher avec Dieu et que je subis une affliction, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ça va produire la persévérance, j'ai pas le choix. Je suis comme prisonnier. Pour donner un exemple, lorsque Paul était en prison, ça produisait la persévérance, puisqu'il ne pouvait pas faire autrement que d'être dans une cellule. Et parfois, nous nous sommes incarcérés dans une situation. Et ça va produire la persévérance si nous voulons marcher avec Dieu. Si on ne veut pas marcher avec Dieu, c'est pas sûr que ça porte ce fruit-là. Et ensuite, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que, pas toujours, je veux dire, je donne un exemple aussi lié aux épîtres ou au livre des Actes. On peut penser que les apôtres pouvaient prier pour sortir de prison, et puis à la fin, il y a eu des prières qui n'ont pas été répondues, puisqu'ils sont morts martyrs. Donc, tout ne se passe pas toujours comme on voudrait, mais en règle générale, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ça s'arrête, l'épreuve. Je retrouve du travail. Je guéris. Je règle un conflit avec quelqu'un. Donc, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Si je persévère pas, je vais pas expérimenter la victoire. Et donc, ça engendre de l'expérience. Parce que quand il parle de victoire, c'est forcément une expérience. Et qui dit expérience? Maturité. Qui dit maturité? Ressemblance à Christ. Et ensuite, et cette victoire, l'espérance. Pourquoi? Parce que grâce à cette victoire et à cette expérience que j'ai vécue, je vais espérer pour d'autres situations. Soit des situations que je vis déjà ou que je vivrai peut-être plus tard. Et donc c'est victoire après victoire que nous allons pouvoir ensuite persévérer de plus en plus et espérer devant d'autres situations de la vie. Et ça, c'est merveilleux de penser à ça. C'est-à-dire que en attendant, Dieu, par grâce, engendre un processus de sanctification qui ne signifie pas que Dieu est contre nous, puisque je vous expliquais tout à l'heure que nous avons la paix avec Dieu. Donc c'est dans la paix que ces choses doivent se faire. Et ce qui est très intéressant, quand on lit les Épîtres, j'y reviens au livre des Actes, tous ces chrétiens, ces croyants qui ont subi des épreuves, nous ne voyons pas d'amertume dans leur cœur. Étienne qui est en train d'être lapidé, on ne voit pas d'amertume. Au contraire, il continue de louer Dieu, de glorifier Dieu, de témoigner de Dieu. Ensuite, autre chose que l'on voit aussi, c'est et qui nous explique comment on peut tenir dans ces situations difficiles. Et là, c'est une question qu'on doit se poser et s'interroger si on n'expérimente pas ça. C'est qu'est-ce qui nous permet de tenir dans l'épreuve? C'est le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu continuellement déversé dans notre cœur. Je ne dis pas que ça coule à flot comme les chutes du Niagara en permanence. Mais, par exemple, vous, au travail, vous subissez une injustice. Vous en voulez à quelqu'un. Vous êtes amer. Mais vous savez que ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Et donc, vous mettez à genoux devant Dieu, vous priez. Vous confessez la doctrine, vous confessez la vérité, vous confessez la parole de Dieu. Vous savez ce que vous devriez vivre, et vous savez que vous n'y arrivez pas dans vos émotions, mais vous voulez obéir. Donc vous suppliez à Dieu. Donc c'est ça qui nous humilie. Parce qu'on est obligé de demander à Dieu la provision de faire quelque chose qui ne nous semble pas juste. Parce que nous, on fonctionne selon la loi, pas selon la grâce. Il m'a fait du tort, faut qu'il paye. Et ça, on n'a pas besoin de prier à Dieu pour avoir de l'amertume. On en a déjà. On n'a pas besoin de prier à Dieu pour dire « donne-moi plus de colère ». Non, on a besoin de crier à Dieu pour avoir plus de pardon, d'avoir plus de miséricorde. Et ça, ça nous énerve de demander ça à Dieu, parce que c'est pas juste de demander quelque chose comme ça à quelqu'un pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Que je demande quelque chose pour moi à Dieu, même si je ne le mérite pas, ça m'arrange. Mais ça m'arrange pas que ça l'arrange lui, le coupable. Et donc, du coup, Dieu veut nous amener à vivre la vie de son Fils, qui est une vie d'amour, une vie de pardon, une vie de miséricorde, une vie de grâce. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez envie, vous, dans cette salle, de ressembler à Jésus-Christ? J'imagine que oui, sur le papier. Eh oui, mais alors à ce moment-là, il faut ressembler de plus en plus à la grâce. Il faut ressembler de plus en plus à la miséricorde. Il faut ressembler de plus en plus à la justice issue de la croix. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire. Ressembler à Christ, ça signifie cela. Et donc les gens qui calomnient, les gens qui parlent derrière le dos des gens, des autres, les gens qui se vengent, les gens qui mentent, les gens qui luttent pour essayer de faire justice eux-mêmes, ils ne sont pas à la ressemblance de Christ. Peut-être que leur cause paraît juste, mais les armes avec qu'ils utilisent sont des armes charnelles, ce ne sont pas des armes spirituelles. Et donc Dieu veut nous amener dans un autre chemin, qui n'est pas facile, mais qui est possible parce que quand on s'agenouille devant Dieu en disant « Seigneur, aide-moi à pardonner à cette personne, aide-moi à aimer telle personne que peut-être elle m'a rien fait, mais son humeur m'énerve, son caractère m'énerve, ça arrive des fois. » Et bien on dit « Mais ça, c'est pas juste, Seigneur, aide-moi. » Et qu'est-ce qui se passe? L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur, et ça produit une victoire dans notre vie, donc de l'expérience, et donc de l'espérance pour la foi d'après. Et c'est ça que nous devons avoir en tête. Et pourquoi Dieu déverse l'amour, son amour dans notre cœur, alors que quelque part on est en position de faiblesse, on dit « Seigneur, j'y arrive pas ». Mais parce qu'il est en paix avec nous, parce qu'il ne nous en veut pas, il ne nous regarde pas selon nos iniquités, tout comme dans le livre des Nombres, Dieu ne voyait pas d'iniquité en Jacob. Et là, Jacob parle de la nation d'Israël. Et bien, de la même manière, il ne voit pas d'iniquité dans son Église. Il ne voit pas d'iniquité en nous. Alors vous allez me dire, mais Apocalypse 2 et 3, Jésus voit plein de problèmes dans les églises. Oui, ça c'est le processus de sanctification et de châtiment. Mais même à l'église de Laodicée, c'est-à-dire l'église la plus tiède, que Jésus-Christ est prêt de vomir, Jésus dit, je châtie ceux que j'aime. L'amour de Jésus-Christ n'était pas enlevé à l'église de Laodicée. Et donc ça, on doit garder ça en tête pour avancer, mes amis. Bien sûr qu'il y a des difficultés dans la vie, bien sûr que tout n'est pas évident, mais il y a une provision qui nous est offerte. Et est-ce que nous l'utilisons dans le bon sens du terme? Est-ce que nous en profitons de cette provision? Est-ce que l'amour est déversé dans notre cœur? Est-ce que l'amour est déversé dans notre cœur? C'est le juge de paix par rapport aux situations de la vie. Et cet amour qui est vécu durant les tribulations est comparable à ce que son fils a vécu durant les châtiments. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça nous amène à la ressemblance de Christ. Et au verset 17, on a un verset très intéressant, et c'est le cœur de ce que je voulais dire cet après-midi, en Romains 5, verset 17. Il est dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ ? » Là, c'est intéressant, il nous est parlé de règne. L'offense d'un seul, c'est la mort qu'a régné, et la justice et le don gratuit produit le règne de la vie. Vous voyez, tout est une question de règne et d'autorité. Dans quel royaume je me situe ? Qu'est-ce qui règne dans ma vie ? Est-ce que c'est la mort qui règne ? Ou est-ce que c'est la vie qui règne ? Si je vis en fonction de la connaissance du bien et du mal et en fonction de la loi, c'est moi qui vais régner et ce ne sera pas toujours pour la vie. Mais si c'est Christ qui règne en moi, ce sera toujours pour la vie. Et donc, avant que nous péchions, lorsque nous avons été conçus dans le ventre de notre mère, déjà le péché était en nous. Avant de commettre le moindre péché, le péché d'Adam nous a été imputé. La faute d'Adam nous a été reprochée. Un peu comme dans les Vendetta, où des fois il y a des guerres générationnelles. Ton père m'a fait ça, ton grand-père m'a fait ça, et on tue les gens aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé. Et ben c'est exactement ce qui se passe dans la justice de Dieu. À cause du péché d'Adam, Dieu en veut à toute l'humanité, dans un premier temps. Mais ensuite, il y a une imputation qui est celle de Christ. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand nous sommes venus à Christ, on n'a pas été acceptés en fonction de nos œuvres, vous le savez. C'est par la foi que nous avons eu accès à Dieu. C'est-à-dire qu'avant de faire le moindre péché, la moindre œuvre mauvaise, le péché d'Adam nous a été imputé, mais avant de faire la moindre œuvre pour Dieu, la justice de Dieu nous a été imputée. La justice de Dieu nous a été imputée. avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Ça nous a été donné gratuitement. L'imputation d'Adam vous a été donnée gratuitement aussi, j'en conviens. Mais l'imputation de Christ vous a été donnée gratuitement de la même façon. Est-ce que vous croyez qu'à cause de ce qu'Adam a fait, vous êtes né pécheur? Vous y croyez? Vous êtes croyez. Okay. En plus, il y a un peu l'expérience, il y a les faits qui parlent. Eh bien, grâce à l'œuvre de Christ, vous êtes vu sans péché. Vous y croyez? C'est la même foi, c'est la même vérité, c'est l'équilibre entre deux vérités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accepter la première partie et refuser la seconde. La seule chose, c'est que la première partie, on l'expérimente souvent. Oui, je suis pécheur, donc j'y crois que j'ai dû hériter de quelque chose qui ne va pas bien. Et dans nos émotions, on se sent tellement mal que parfois on a du mal à croire à une autre vérité. C'est d'avoir reçu la justice de Dieu. Et c'est intéressant parce que le mot là a plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Le mot abondance, là en grec, c'est périsseia, ça signifie une mesure bien au-delà de l'ordinaire. Pour vous donner un exemple, je sais pas quand c'était le moment de Noël là dernièrement. Des fois, les grands-parents vont donner une enveloppe aux petits-enfants et ils vont donner un billet, deux billets, je sais pas. Et imaginez, alors que on n'est pas milliardaire dans la maison, mais à un moment donné, il y a une enveloppe qui circule. Voilà, allez, c'est pour mon petit-fils, je lui donne. Et puis le petit-fils ouvre l'enveloppe et il y a 10 000 euros en liquide. C'est un cadeau surabondant. Vous voyez, c'est quelque chose qui est pas logique. Eh ben, c'est ce mot-là qui est utilisé là, périsseia, l'abondance de la grâce. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pas normal, quoi. C'est surabondant. C'est trop. Hein, c'est l'expression à la mode en ce moment. Oh, c'est trop. Mais là, c'est littéral. C'est trop. C'est-à-dire que c'est sans aucune mesure. On peut pas comparer à ce que Dieu pouvait faire d'autre. C'est quelque chose que c'est inattendu. Des fois, c'est utilisé dans d'autres contextes de superflu. Sauf que nous, là, c'est pas superflu, on prend tout. Mais donc, il peut y avoir une abondance de péché, mais il y a une surabondance de grâce. Ça inonde tout. Vous savez, imaginez le déluge. Bon, là, c'était un jugement, c'était pas une grâce. Mais imaginez le déluge, et vous avez quelqu'un qui regarde la montagne, une montagne, quelle qu'elle soit, puis « Oh là là, elle est haute, celle-là, si je suis là-haut, je risque pas de vivre des inondations, je vais aller construire une maison. » Oui, mais quand il y a eu le déluge, c'était pas une averse. C'était un jugement surabondant. Ça a été une pluie surabondante. Tout a été couvert. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, la grâce de Dieu a couvert tous vos péchés. C'est surabondant, la grâce de Dieu. C'est inimaginable. C'est incompréhensible. Ça n'a pas de sens. On peut même pas se la figurer, l'imaginer, cette grâce. Nous avons la paix avec Dieu, une paix éternelle. C'est terminé. Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Et donc, on a tout reçu d'Adam. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu le péché. On a reçu la mort. C'est-à-dire que lui, il est mort, mais nous aussi. Et on a reçu la séparation d'avec Dieu. On a tout reçu. Tout ce qu'Adam a reçu, on l'a reçu aussi. Eh bien, c'est la même chose avec Christ. Tout ce que Christ a reçu, c'est-à-dire, il a subi le châtiment de nos péchés, ben, c'est fait pour nous aussi. Il a été enseveli, nous avons été ensevelis. Il est ressuscité, nous avons été ressuscités. Il a été glorifié, nous avons été glorifiés. Il est le Fils bien-aimé, nous sommes aimés du Père. Le Fils nous prépare une place, j'allais dire au soleil. Mais non, c'est mieux, c'est dans la maison du Père. Je veux dire, tout ce que Adam a reçu, nous l'avons reçu, mais tout ce que Christ a reçu, nous l'avons reçu aussi. Et pensez-vous que Adam, ce qu'il a reçu, va couvrir ce que Jésus a reçu? Bien sûr que non, Jésus a reçu bien plus. Et des choses bien meilleures qu'Adam. Ça surpasse tout ce qu'Adam a reçu. Et donc cette grâce efface la malédiction d'Adam. C'est une grâce surabondante. Pour le dire autrement, la condamnation en Adam, elle est juste. Elle n'est pas surabondante. Elle est sévère, mais liée à la sainteté de Dieu et à la gravité de la faute, elle est juste. La grâce de Dieu, elle n'est pas juste. Déjà, la grâce, c'est pas forcément juste, mais surabondante, c'est-à-dire quelque chose d'incommensurable, on ne peut pas la limiter. C'est pas juste. Ça vient bien au-delà de l'entendement. Et donc, la provision de Dieu nous permet maintenant de recevoir cet amour qui est déversé dans notre cœur. Et c'est ça qui doit être notre expérience, l'expérience de la justification, l'expérience de la sanctification, le fait que nous puissions traverser des périodes de désert, des périodes de montagne, des périodes de vallée, des périodes difficiles, des périodes favorables, c'est l'amour qui est déversé dans notre cœur, c'est ça qui nous fera tenir. Et si vous n'avez pas cet amour déversé dans vos cœurs, suppliez Dieu, confessez vos péchés, remettez-vous en question, lisez la parole de Dieu, révisez vos notes, méditez, intercédez, priez, parce que c'est la réalité de la vie chrétienne ou ce n'est pas la vie chrétienne. L'amour qui est déversé dans notre cœur. 2 Corinthiens 5, 17. Nous faisons les choses, nous sommes pressés, car voilà, c'est l'amour nous contraint de faire les choses, selon 2 Corinthiens 5, 17. L'amour nous presse, même verbe qui est utilisé pour presser un agrume. C'est cet amour-là qui va faire la différence. Vous savez, quand une église n'œuvre plus, elle n'aime plus. Quand les gens ne prient pas pour les autres, ils n'aiment plus. Quand ils n'évangélisent plus, ils n'aiment plus. Quand ils ne se rassemblent plus, ils n'aiment plus. Quand ils ne prennent pas les besoins du royaume de Dieu d'abord au détriment peut-être de leurs idées personnelles ou de leurs souhaits personnels, les gens n'aiment plus comme il faudrait aimer. Ils s'aiment eux-mêmes, ils aiment leur entourage, mais ils n'aiment plus comme il faudrait aimer. Et donc, on a, pour vous donner un exemple de ce que Paul a pu traverser, par exemple, où nous voyons les bienfaits de la sanctification et de l'imputation en Christ, et en même temps les difficultés de la vie. Il dit aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 8, verset 2, « Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Il part de l'offrande qu'ont fait les Philippiens pour les saints de Jérusalem. Mais regardez, il est dit, « Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, difficultés de la vie, leur joie débordante. » Débordante, c'est le même mot grec, peressia. C'est le même mot que surabondante en parlant de la grâce. C'est-à-dire que les Philippiens avaient tellement reçu la grâce surabondante de Dieu, c'est que même au milieu des afflictions, ils ont eu une joie débordante à donner aux autres. Et c'est ça en fait la vie chrétienne, c'est comme c'est une joie débordante, il y en a pour d'autres. Comme elle est surabondante, la grâce, il y en a pour d'autres, elle n'est pas que pour soi. C'est pour ça qu'on ne peut pas mesurer la grâce de Dieu. Si je mesure la grâce à moi, elle sera limitée, cette grâce. Elle va s'arrêter un jour. Mais la grâce de Dieu et l'amour inconditionnel feront que nous serons persévérants parce que nous allons expérimenter des choses avec Dieu et ça va produire l'espérance. Et du coup, on ne perdra pas l'espérance jusqu'à la fin de nos jours parce que nous aurons vécu selon cette vision des choses. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Je continuerai mercredi et je ferai un peu une fusion avec ce que j'ai dit mercredi dernier. Mais pensons à ça. Nous avons la paix avec Dieu. Vous vous rendez compte? Nous avons la paix avec Dieu. Et mes amis, si nous avons la paix avec Dieu, on peut avoir la paix avec soi-même. On peut avoir la paix avec nos difficultés, la paix avec les autres. Nous avons la paix avec Dieu. Profitez-en et soyez bénis.